Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même quand on est confiné, même qu'on est un peu coincé chez soi, mais on nous dit de faire attention en sortant, mais en fait, faut faire attention, faut pas trop sortir. On sait plus où on en est, donc j'ai rappelé ce qu'on appelle aujourd'hui les confinex de MDR, à savoir deux personnes qui me sont chères et qui m'ont suivi au cours de ce confinement. À ma gauche, j'ai Perrine Kenson.
Hello.
Et de l'autre côté, tout aussi félin que Perrine, Max Besnard.
Wow.
Ah, vous êtes des petits entrechats, j'aime bien ça. Les entrechats sont là, les entrechats. Vous êtes un peu les cat size de
oh, grave.
Ah ouais.
De ce podcast. Et vous savez quoi? Là, je suis en train de raconter n'importe quoi, alors que les gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce que il y a toujours pas de comédie française dans les cinémas, vous l'aurez remarqué. Donc
il y a toujours pas de cinéma tout court.
Il y a toujours pas de cinéma. Alors, si j'avais un cinéma, je serais bien content parce que je serais le seul dedans, tu vois.
Pas emmerdé par les connards au popcorn, quoi.
Ah, ouais.
Ça m'arrivait une fois d'être tout seul dans un cinéma, figure-toi.
Et c'était avec moi.
Non, aussi. C'était pas avec toi, mais vraiment, genre d'être tout seul dans la salle. Et c'était un 24 décembre pour voir Escroc mais pas trop, donc Woody Allen.
Ah.
C'est fou, hein.
Et c'était toi, pour voir Mel Gibson, c'était pour le film Apocalypto.
Wow.
I was all alone.
Toute seule, ah ouais, pour Apocalypto.
Toute seule dans Apocalypto à
Beauvais. Apocalypto, en plus, pas du tout une comédie, mais.
Alors, ça dépend de la façon dont tu le regardes.
Alors, moi, c'était. Moi, j'étais tout seul dans la salle pour Brève de comptoir de Rives. Et
oui.
C'est un des pires moments de comédie française que j'ai jamais vécu de ma vie. Et ce qui était terrible, c'est que j'ai un peu tapé la discute avec l'ouvreur à l'entrée qui m'a demandé mon ticket. Il me dit « Ah, vous allez voir ça et tout ». Et ensuite, je suis sorti. C'est très, très rare que je sorte une comédie. Et je suis sorti au bout de 45 minutes après la troisième blague raciste. Mais c'est de l'humour. Et je suis sorti et il m'a dit « Ah, c'était pas bien ». Et là, j'ai hoché de la tête. Et il avait l'air si déçu, en fait, que je parte avant la fin du je me souviens c'était à l'ouverture, tu sais, des nouvelles salles du GC Léal, tu sais, les salles 25, 26, 27, celles où on met les films en vraiment genre à la toute fin. Et je me suis dit, ah putain, j'ai ces nouvelles salles pour moi, et malheureusement c'était pas le bon film.
Ouais. Donc, ça aurait été tellement plus cool si t'avais vu Seul Tout ce jour-là.
C'est vrai. Seul Tout dont on va peut-être parler. Et donc, les gens ne savent toujours pas ce que c'est que le sujet. Je tiens à vous le faire remarquer. Aujourd'hui, on va avoir de la baston. Parce qu'on a décidé de faire un fight. C'est pour la première
fois.
Voilà. Voilà. Tu vois la toxicité de cet homme. Dès qu'on lui dit qu'il y a de la bagarre, regarde, il est tout enthousiaste. Ce soir, ça va sentir un peu la sueur, le combat, le fight, puisque nous allons faire un duel de duo.
Et, comment ça s'appelle d'ailleurs un duel de.
Un duel?
De triplé.
Un truel.
Un truel, hein.
Non, je sais pas. Ça s'appelle un Royal Rumble. Et si je pouvais, je ferais Red Skeleton Rumble. Et alors, on a décidé de se répartir les tâches. On va chacun choisir un duo et on va essayer de le défendre avec toute la bonne foi qui nous incombe. Et j'allais même dire aussi de tous les coups bas qui nous décombent pour la part de Max. Parce que je sais très bien qu'il est jamais à court de petits.
Oh, vous avez pas idée.
Il est jamais à court de petits coups de couteau. Prépare-toi, Perrine, ça va être compliqué.
Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis hyper honnête. Je comprends pas du tout. Enfin, ça me dépasse, moi, ce genre de manière.
Eh, mais
de...
tu sais quoi? Et ça, c'est la clé. Si tu veux réussir en Real TV, Perrine, il faut rester comme ça. Il faut surtout rester soi-même.
Ouais, je suis tellement vraie. Moi, je reste vraie, quoi.
Voilà,
c'est ma vérité, gars. C'est ma vérité.
Est-ce que t'es en train de teaser l'arrivée de Perrine Kenson hameçon dans les anges de la télé-réalité.
Oui.
Écoute, tu sais quoi, je savais pas si ça allait être vrai, mais si ça existe, je paye pour l'avoir. Tu me dis qu'il y a une chaîne de télé qui se crée pour ça, je paye.
Bah, évidemment, je veux ça.
Alors, mais je paye aussi pour toi, parce que je sais que tu es aussi l'électron libre qui va. Vous vous rendez compte qu'on est à la fin de confinement, on sait plus où on en est de nos vies. Hein, faut le dire franchement.
Enfin, moi, en tout cas, je sais pas
dans quelle étagère, mais en tout cas, voilà. Qui vas-tu défendre, Perrine ?
Eh bien, moi, je vais défendre les petits genoux de la bande qui sont le palmacho, donc c'est-à-dire Grégoire Ludic et David Marsay.
C'est plutôt un. Voilà, c'est le choix du challenger, puisque ouais. C'est clairement les challengers de notre. Du duo que nous. De, des trios que nous avons. De duo.
Du trio de duo.
Je sais plus. Faut pas me demander les chiffres, les gars. Moi, je suis un mec de lettres.
C'est un peu l'équivalent de la diligence des desserts chez, chez Buffalo Grill, tu vois. C'est all-in, quoi.
Alors, Max Besnard, qui as-tu décidé de défendre avec toute l'honnêteté intellectuelle que tu nous as habitué au cours de tous ces épisodes d'air? Et je suis comme Sarkozy, je parle en antiphrase tout le temps maintenant. Voilà.
C'est ça.
Alors, l'excellent Max Besnard.
Dans ce cas, je vais reprendre des techniques de politicien et je vais systématiquement vous citer par vos prénoms et noms. Alors, Daniel Andrieff, écoute, j'ai décidé, face à Perrine Kenson, de choisir Kadmerad et Olivier Barou, qui est tout simplement le meilleur duo d'humoristes que la France ait connu.
Ouais. Oh putain.
Ah bah, alors, si tu pars comme ça, mec, tu pourras. Enfin, c'est fini. T'as déjà topé tous tes arguments. Donc Allez, merci. Au revoir, Mac Besnard. Salut.
Je pense que tes graines de star, tu vas te les remballer, mon gars. Parce que moi, j'ai choisi quand même l'audace. J'ai choisi.
Comme dans Top Chef, toi.
J'ai choisi
l'audace. La comédie revisitée.
J'ai choisi la comédie revisitée et je suis parti sur un. Bah, comment dire, la France que j'aime, la France qui gagne, la France multicoloré, j'ai choisi Eric et Ramzy. Et tu te demandais où j'allais avec ça.
Quelle démagogie, Daniel Andrieff.
Ah là là, ouais.
Parce qu'honnêtement, Max Besnard, quand tu pars comme ça, tu te dis, mais qui va nous prendre? Parce que, évidemment, on a pesé le pour et le contre. Max Besnard voulait prendre les Chevaliers du Fiel. Ah. Je lui ai dit, est-ce que t'es sûr que tu veux te regarder les deux films?
Allez, c'est triste quand même de reprendre mes propres vannes. T'as pas d'humour à ce point-là, c'est terrible.
Non,
Daniel Andrieff, tu reprends mes propres vannes à ton compte.
Perrine m'a avoué son crush pour Chevalier et Las Palès, je sais plus lequel des deux.
Ah mais... oui.
Las Palès, c'est celui qui est grand et Chevalier, c'est celui... Non, c'est le contraire.
Las Palès,
c'est celui qui ressemble à un prof.
Ouais, c'est le petit barbu que j'aime.
Voilà.
Mais tout le monde aime le petit barbu, pourquoi personne n'aime l'autre?
Parce qu'il a trop une tête de comptable. Moi, je préfère le petit barbu parce qu'il a, un débit absolument extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait mourir de rire, quoi.
Et puis, bien sûr...
Il a l'air d'être stone, le gars, quoi.
Il a l'air d'être foncé, oui, c'est sûr. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, Omar et Fred. Mais Omar et Fred, je pense que...
Qui a été name-droppé.
Qui a été name-droppé, mais oui. Comme ils ont pas réalisé de film ensemble, en fait, en tant que Omar et Fred. Donc, du coup, ils se sont séparés avant de sortir leur premier album, pour moi. Hein.
C'est un peu ça. J'avais suggéré aussi Fabrice Eboué et Thomas Edgijol.
C'est vrai, ils étaient sur la ligne. Ben, je sais pas pourquoi personne ne voulait les prendre.
Ils ont pas fait grand chose en dehors des films, ils n'ont pas fait grand chose à deux, quoi.
De toute façon, moi j'ai pris direct la team de Winner, donc je voulais gagner. Donc,
j'ai fait le pari de la nouveauté, moi j'ai fait le pari des jeunes, moi j'ai fait le pari de l'avenir.
Moi j'ai fait le pari de l'humour, Perrine.
Vous savez quoi, j'ai jamais senti autant d'électricité. Que depuis la récré de CM1 où on se battait pour savoir qui était le meilleur chevalier du zodiaque et honnêtement tout le monde sait que c'est le chevalier du Gémeaux. Allez, au revoir.
Pas du tout,
Phoenix.
Big up, mon anniversaire bientôt. Bisous.
Ah, c'est vrai, c'est bientôt, Perrine. Ouais. Ne perdons pas ça de vue.
Bon, c'est pas pour autant qu'on sera gentil aujourd'hui et cordial.
Oh bah t'as intérêt.
Je vais être gentil, surtout que le mien arrive très bientôt. Bon. Alors, on a décidé de délimiter un peu, de donner quelques clés pour se repérer dans ce fight qui, je suis sûr, va être objectif, bien sûr, aussi déterminant dans le choix de ce que vous allez regarder à la télé. C'est un podcast de tout nouveau genre, franchement, deux opinions qui s'affrontent comme ça, je crois que ça a jamais été fait en podcast.
Jamais.
Et on va commencer un peu par délimiter le duo le plus charismatique de tous ceux qu'on m'a mentionné. Est-ce que tu veux commencer, Max? Parce que toi, tu pars vraiment avec un handicap.
Alors... Non, alors je suis pas d'accord. Déjà, c'est un critère qui est excessivement subjectif et que tu as choisi tout spécialement parce que tu savais que. Alors, j'allais dire Eric et Ramzy, évidemment, c'est des monstres de charisme tous les deux. Voilà. Donc, c'était un petit peu
méthode
facile.
Méthode de politicien, tu dis non. Du bien avant de dire du
mal. Il a bien raison.
Putain, Sarkozy sort de ce corps.
C'était un peu facile de partir là-dessus. Palmacho, ils sont tellement charismatiques que personne ne les connaît. Et en ce qui concerne KDO, c'est une carrière, c'est un nom. C'est des visages connus dans la France tout entière qui ont été capables de toucher toutes les strates de l'humour, c'est-à-dire qu'ils ont commencé de façon très
indé,
voilà, exactement, très indé, hein. C'était des animateurs et humoristes sur Comédie, la grosse émission, donc vraiment ils sont partis tout en bas, started from the bottom, et ils sont arrivés tout en haut, now they're here, donc c'est... Une ascension fulgurante, incroyable, des carrières solo, je trouve, sidérantes, et vraiment des visages universellement connus et reconnus.
Alors, est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ce duo? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est l'acteur et l'autre qui est un peu le scribouillard sur le côté?
Alors, le truc, c'est que Cad, évidemment, il a, alors là, je parle de façon très sérieuse, hein, il a marqué, je trouve, de son empreinte la comédie en France. Ce qui est évidemment pas le cas d'Olivier Barou. Olivier Barou, personne ne le connaît vraiment, que ce soit son visage ou même son œuvre. C'est un petit peu compliqué de cibler Olivier Barou en disant, ah bah oui, ça, j'ai vu, c'est un film d'Olivier Barou, non, évidemment.
Oui, je vois plus Cameron que Olivier Barou, tu vois, en tant que style.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Olivier Barou s'efface, le nom Olivier Barou s'efface derrière ses films, derrière son œuvre. Alors œuvre, après on peut décider ou non de la qualité des films d'Olivier Barou. Je pense que c'est pas forcément le propos aujourd'hui.
Bah, je pense que là tu prendrais un gros désavantage. Ouais, parce que nous on a vu Safari, si tu veux.
Alors attention, moi je défends Safari à la vie, à la mort. J'adore Safari.
Alors, et je reconnais
pas
là,
que de le défendre là.
Et je reconnais toute ta capacité à défendre l'indéfendable, et ça, je te dis bravo parce que.
Ah bah oui, tu me connais.
C'est un de ses pires films.
Mais pas du tout. Il y a des vannes absolument géniales. Il y a des répliques d'anthologie que je continue à sortir aujourd'hui dans mon langage du quotidien. Donc pas du tout.
C'est une excellente comédie. Qui va voir ça.
C'est une excellente comédie française. Moi, Frédéric Lebel qui voit le lion en train de bouffer quelqu'un et de recracher la tête et qui dit ah, c'est marrant, c'est comme les crevettes. Moi, ça me fait mourir de rire. Voilà. Donc c'était quoi ta question?
Non,
le charisme, excuse-moi, Cadmerade, l'une des personnalités préférées des Français et des Françaises. Tu veux aller, où est-ce que tu veux aller après ça? T'es au top.
Alors, parlons du charisme de Cadmerade, puisqu'on va parler du point fort du duo. Y a un vrai truc avec Cadmerade, c'est qu'au début de sa carrière, il avait pas du tout le même arc de carrière que aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il arrivait à interpréter des rôles, et aujourd'hui, tu le sens qu'il joue plus que des pachas, des bourgeois de droite de banlieue. Tous ses rôles maintenant, c'est plus que ça. Et il y a eu vraiment un basculement dans sa carrière qui je pense lui a porté préjudice, quoi. C'est-à-dire on le voyait un peu partout et au bout d'un moment il a joué plus que la même chose. Enfin, je pense que le basculement s'est fait à partir de juste après avec Danny Boone, quoi, juste après Bienvenue chez les Ch'tis. Ensuite, il a commencé à jouer dans n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il rend service à son pote, tu vois. On a marché sur Bangkok. C'est un des pires films. C'est un des pires films tournés avec une caméra.
Est-ce que tu trouves qu'il s'est Christian Clavierisé?
Exactement, mais en plus sympa.
Ah, mais non. C'est-à-dire, je t'arrête tout de suite. Excuse-moi, mais quand, je veux dire, on a nous-mêmes encensé le doudou dans lequel il joue.
C'est vrai que c'est sympa.
Il est encore capable de fulgurance en tant qu'acteur comique.
Comme Christian Clavier.
C'est joué aussi dans des rôles beaucoup plus dramatiques.
Comme Christian Clavier.
Non, mais alors pas du tout. Excuse-moi, mais sors-moi le Baron Noir de Christian Clavier. Tu vois, soyons un petit peu objectifs,
oui,
s'il vous plaît.
Baron Noir, c'est pas de la comédie.
Peu importe, ça veut juste dire qu'il a un panel de jeux qui est assez incroyable.
Peut-être qu'en comédie, il s'est mis dans un créneau et qu'en fait, finalement, il est mieux dans les films dramatiques, dans les rôles dramatiques.
Peut-être, mais je reste convaincu que bien exploité, et je prends encore l'exemple du Doudou, bien exploité, il peut faire des merveilles.
Ouais, mais
du coup, c'était une très bonne surprise.
Je pense que même le basculement, on peut même dire que ça vient même au moment des choristes. À partir du moment où il commence à avoir une espèce d'autre aura.
Bah, il a vu sur son chemin.
Ouais, il a vu sur son chemin. Il a vu aussi le box-office du mec. Il cumule des dizaines de millions d'entrées à lui tout seul, quoi. Évidemment qu'au bout d'un
moment. On reparlera des films plus précisément. Perrine, toi, comment tu défendrais ton duo de noobs?
De noob. Non, bah c'est vrai, il y a Max qui disait il y a deux secondes, personne ne sait qui c'est le palmacho.
Bah oui, alors on va le dire.
J'ai envie de dire que sur les internets, c'est simple, Eric et Ramsey, bah, c'est à peu près les gens que ton grand
internets.
Frère...
Les internets, c'est pas la vie, Périne.
Ouais, c'est les gens que ton grand frère y regardait quand il était jeune. KDO, c'est les trucs que ton père y regardait quand il était jeune. Le palmacho, c'est ce que tu regardes maintenant, c'est
alors,
à dire
beaucoup
que
de condescendance,
hein,
beaucoup de condescendance, parce que moi, la grosse émission de KDO, je la regardais en direct et j'étais hyper fan.
Mais oui, mais et qu'est-ce que tu es, papa? Donc
mais bien sûr, je ne suis pas grand-père, faut pas exagérer non plus, Périne. Tu dis vos papas regardaient, non, pas du
alors,
tout.
Attends. Moi, je pense que on peut donner raison à vous deux dans ce cas-là, c'est-à-dire Palmacho, qui c'est, il faut dire qui c'est. C'est Grégoire Ludig et l'autre
et
gars.
Marseille. Non. C'est horrible ce que tu dis. Grégoire Ludig et David Marseille, c'est-à-dire que pour le coup, il y en a pas un qui dénote plus que l'autre. Parce que
ah ouais,
pour le
alors,
coup,
ah non,
alors,
non,
alors
faut
c'est Grégoire Ludig. C'est Grégoire Ludig et le mec qui n'a pas tourné chez Quentin Dupieux.
Ça oui peut-être, et encore c'est pas vrai puisqu'ils ont tourné ensemble dans le prochain Quentin Dupieux qui est Mandibule quand il sortira. Ils sont tous les deux dedans. Mais
mais ça, c'est parce qu'ils ont eu un prix d'amis, quoi, pour les deux. Ouais. Et surtout, son poteau, quoi. Il lui a dit, poteau, s'il te plaît.
Non, ça, c'est intéressant. Il rejoue quelque chose qui est un peu déjà vu par ailleurs. Mais l'idée que d'un seul coup, c'est vrai que Grégoire Ludig est un peu le beau gosse un petit peu lourd. Et David Marseille, c'est le petit gars qui a plus l'humour et plus de finesse et d'intelligence.
Ah, non,
mais c'est vrai qu'en vrai, c'est des gars qui n'existent que par deux, qui existent très bien deux par deux, qui en tout cas se complémentent l'un de l'autre, et il n'y en a pas justement un qui écrase l'autre totalement. Je pense qu'on peut totalement être fan de Marseille ou fan de Ludig, mais surtout fan du duo, parce que c'est un duo qui est pour moi ultra complémentaire et qui a une vraie réciprocité dans sa manière de parler et dans sa manière d'écrire, parce que c'est eux qui écrivent leur truc, hein, comme les autres d'ailleurs, mais qui en tout cas savent se donner exactement le beau rôle à un moment donné l'un pour l'autre. Et je pense que pour moi, c'est le duo, comparé à tous les autres en tout cas, c'est le duo le plus complémentaire et le plus, égalitaire.
Égalitaire,
de tous ces deux
tu plaisantes. Ouais. Eric et Ramsey, ils ont écrit la plupart de leurs films ensemble.
Oui, mais je trouve que...
C'est vraiment une hydre
à
deux têtes, Eric et Ramsey.
Eric et Ramsey, je suis d'accord, mais je trouve qu'en fait, on enferme Eric dans un rôle, on enferme Ramsey dans un autre, alors que je trouve que dans le cas de Ludig et Marseille, au contraire, ils arrivent à s'inverser les rôles assez régulièrement, et ils arrivent à se donner à chaque moment la part belle à l'un ou à l'autre. Et vraiment, dans le film, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui... Ou dans le film, ou dans le sketch, ou dans le... Peu importe, il n'y en a pas un qui s'en sort mieux que l'autre. Il y a vraiment, pour moi, c'est le duo le plus égalitaire, et ils sont vraiment très très drôles, à savoir s'appuyer sur les points forts physiques et de verbal, puisque enfin c'est vraiment des gens qui ont pas du tout la même scansion quand ils parlent. Ils savent vraiment appuyer sur les points forts, et ça me fait vraiment rigoler. Ils essayent pas d'inventer un autre langage ou d'inventer une autre façon de parler. Ils sont absolument c'est des gens qui moi me font beaucoup beaucoup rire sur leur manière de jouer de leurs points forts et de leurs points faibles.
Eh bien, écoutez, merci d'avoir débattu de vos et argumenté, parce que maintenant, moi, je viens porter le coup de grâce, c'est-à-dire donner la victoire à Eric et Ramsey, qui sont quand même. C'était facile pour
Attends,
moi.
Attends, est-ce que t'es jugé parti, parce que ça va être compliqué. Hein.
Non, après, on va décider en toute bonne foi, hein, mais
ça sera pas possible.
Enfin, en toute bonne foi, le palmacho. Enfin, au bout d'un moment.
Eric et Ramsey, est-ce qu'il faut rappeler leur palmarès? Et d'abord, eux, ils ont fait de la scène. Et pas juste.
Le Palmacho aussi, ils ont fait de la scène, ils ont fait 3 spectacles. Bouh.
Ouais, mais bon, je pouvais pas parce que.
Ils ont commencé par là.
Ils passaient en même temps
aussi,
que les Chevaliers du Fiel, alors j'avais pas le temps, il fallait que je choisisse. Non, mais.
En fait, tu préfères la scène du Sud.
Est-ce qu'ils sont bien, les spectacles de Palmacho?
Ouais.
En toute bonne foi.
J'aime bien. Ouais.
Bah, si je les avais vus, je te dirais oui, quoi. Mais.
Parce que, honnêtement, Palmacho, pour moi, il y a un truc en termes de charisme, c'est qu'ils. On va le voir après, mais c'est qu'ils occupent un peu la place que occupaient les inconnus, en fait. On est nostalgique des inconnus.
On va y revenir, mais en effet, mais ils ont le droit d'avoir des inspirations et des gens qui les ont. Voilà. Et pour moi, ils rendent très bien hommage et ils l'adaptent à l'époque. Moi, c'est ça, le talent.
moi, je vais juste te dire, Ramzi Bedia et Éric Judor, c'est les mots ensemble, et les mots me font hurler de rire. C'est le spectacle Éric et Ramzi, c'est le spectacle Éric et Ramzi sans espace, et ça, c'est vraiment une bonne, c'est fatal. Je trouve ça génial comme idée. C'est Platane.
Ah non, attention, si tu commences à dériver sur ce qu'il y a derrière, si tu commences à dériver sur ce qu'il y a derrière, je sors direct la carte box-office, je sors direct la filmo de Cad et d'Olivier Barou, et vous êtes tous les deux KO direct.
Attends, moi je vous envoie toutes les millions de vues sur YouTube du Palma Show, et là je vous explose tous.
La moindre vidéo de la grosse comédie avec KDO fait plus de vues que Palma Show.
N'importe quoi. Mais fais-toi plaisir, Max Bestar, mais non.
Je suis en train d'imaginer le monteur qui... On l'embrasse, qui va être monté tout ça. Parce que putain, on est là genre comme des enfants. Alors que c'est Éric et Ramzi qui gagnent, je veux dire, évidemment.
Mais qui gagne quoi?
Il gagne la timbale.
Il a du charisme d'abord.
Mais non, il a la queue du Mickey, c'est tout ce qu'ils ont. Le charisme,
désolé,
c'est moi.
Je suis
Éric et Ramzi, tu veux dire ceux qui ont passé leur vie à essayer d'imiter. Comment il s'appelle? Voilà, tu
attends,
vois, ça tombe à plat.
Tu aimes, Raymond DeVos, qui t'aime.
Ils ont passé tout le début de leur carrière à essayer d'imiter le style de Jamel et ils y arrivaient pas, quoi. Donc arrête.
C'est la paternité, je pense, de ce que j'appellerais le Kaderaoun, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait un ton un peu comme ça. Mais ils ont trouvé leur genre. Et puis moi, je veux dire, il y a pas si longtemps, j'ai regardé la vidéo de McFly et Carlito. Alors que moi, tu vois, McFly et Carlito, bon. C'est pas forcément ma cam. Et là, ils sont, ça me fait hurler de rire alors que c'est vraiment un humour qui est, j'allais dire, quand ils sont ensemble, je pense qu'ils sont incontrôlables. C'est Taz de Tasmanie fois deux. Alors que normalement, ils devraient pas en avoir deux. Je pense qu'il y a, vraiment, il y a un truc de Carib et Scylla. Quand ils sont ensemble, ils deviennent incontrôlables et c'est vraiment de l'humour très irrespectueux. C'est vraiment de l'humour qui va dans tous les sens. Et honnêtement, je vois pas, enfin, ranger votre KDO et votre Palma Show. Je veux dire, ils sont vraiment au-dessus de ça. Ils sont vraiment une espèce de boule d'humour. Et
mais
honnêtement,
tu plaisantes quand tu regardes les sketchs de l'époque de la grosse émission, quand tu regardes les parodies de 16 discutes de Jean-Luc Delarue et compagnie.
Alors parlons-en.
Avec KDO, c'est tellement monstrueux en termes d'écriture, en termes de répartie. Et pour moi, il n'y a rien qui égale ça
en termes de plus charismatique de tous les des duos que nous avons parlé? Réfléchissez. Hein?
Moi.
Alors Palma non, Show. Déjà ça peut pas être le Palma Show parce qu'ils ont des charismes d'huître.
Attends, charisme d'huître.
Et Eric Judor, je suis pas objectif parce que je l'aime d'amour. D'ailleurs, c'est le seul avec de toutes ces personnes. C'est le seul dont j'ai une photo sur mon compte Instagram. Hein, donc voilà, ça prouve que je l'aime. Et évidemment, Ramzi, c'est une machine de guerre, quoi. Dès qu'il est en roue libre, c'est monstrueux. Je suis d'accord avec toi.
Simple fait de charisme. Moi, je suis qu'un homme. Mais je veux dire, de tous les duos qu'on a mentionnés, celui dont je couche avec les deux membres, c'est celui-là.
Ah non, moi, c'est pas macho.
Alors, c'est KDO.
Je suis mal placé. Non, moi, c'est les trois.
Toi, tu choisis KDO parce que tu sais que Olivier Barreau, il va tenir la caméra. Et que ça va être sale. Je sais pas où on va dans cette
situation. Tu me dégoûtes.
Faut que ça s'arrête maintenant.
Alors, on va parler de leur carrière télé. Et ça, c'est important. Et tu l'as dit, KDO, avant de devenir des bourgeois de l'humour...
Avant de devenir des monstres sacrés de l'humour...
Non, je préfère utiliser le mot bourgeois. Ils faisaient Oui FM, ils faisaient des postes synchro. Moi, j'essaie vraiment découvrir époque Oui FM. Et ensuite, ils étaient chez Delarue. C'était des snipers. Des mecs que tu prenais dans ton émission pour les dynamiter. Et ils avaient cette dynamite. Je pense qu'aujourd'hui, Cad l'a un chouïa perdu.
Ah non, mais alors, je suis d'accord avec toi.
Comme on dit dans Rocky 3, il leur est arrivé la pire des choses qui peut arriver à un boxeur. Ils se sont embourgeoisés.
Ah mais j'allais te dire, ils se sont embourgeoisés, ça c'est une évidence. Puisque de toute façon, aujourd'hui, il peut pas y avoir un film de Cad ou d'Olivier qui ne tape pas au minimum le million. Donc évidemment, il y a des enjeux monstrueux derrière et ils sont obligés de marcher sur des œufs en permanence. Mais le fait est que si on parle de leur carrière télé pure, et je reviens encore une fois à la grosse émission, c'est entre 99 et 2001, c'est C'est de l'orfèvrerie en ce qui me concerne sur l'humour. J'étais un inconditionnel. J'ai acheté les DVD derrière dès qu'il y avait des compilations de leurs sketchs. Je veux dire, il y a personne aujourd'hui qui ne sache pas qui n'ait pas au moins entendu une fois un sketch de cette époque-là. Je veux dire, les sketchs sur Jean-Michel Pachut et compagnie, ça vient de là. Non mais voilà, tu vois.
Oui.
Rien que d'y penser, vous rigolez. Évidemment, parce que.
Je vais pas dire que j'aime pas, quoi.
C'est des snipers de la rigolade, quoi. Vraiment, à cette époque, ils sont.
Je préfère Jean-Michel, je raconte mal, moi.
Non mais peu importe celui qu'ils choisissent. Enfin, Jean-Michel nul en géographie, machin. Enfin, ils étaient tellement, tellement drôles. Et c'est vrai que on voyait déjà une dynamique se créer. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais littéralement Kadmerat qui prenait souvent le devant de la scène et qui jouait des personnages, etc. On voyait qu'il avait du mal un peu à retenir ses textes, mais il rigolait tout le temps. Il rigolait de ses propres blagues. Moi, ce qui me fait mourir de rire. Et derrière, tu sentais que Olivier, c'était un peu le cerveau qui était en retrait, mais qui avait une vision peut-être plus globale de ce qui était en train de se passer. Et ça s'est révélé vrai dans la suite de leur carrière, parce qu'il y en a qui est devenu star devant la caméra et l'autre star derrière la caméra.
C'est des très mauvais arguments.
Comment ça, c'est des très mauvais arguments? Tu plaisantes?
Non, mais je comprends. Ils ont quand même une carrière télé assez imposante.
Ils ont une carrière de fou en télé, arrête.
Le seul truc, c'est que par exemple, si on les met devant l'épreuve du YouTube, sortie de Jean-Michel, je raconte mal, ils n'ont pas de gros.
Ah, il y a un peu de. Honnêtement, pour les défendre, mais après je les enfoncerai avec le Balmacho, mais pour les défendre un petit peu, il y a Camoulox quand même qui était quand même.
C'est vrai,
Camoulox, c'est un hashtag universellement utilisé sur les Twitter francophones. Ouais. Arrêtez. Il n'y a pas de hashtag Balmacho, il n'y a pas de hashtag Eric et Ramzy.
Ok, d'accord.
Personne peut faire ne serait-ce qu'une citation d'Eric et Ramzy.
J'essaie d'être sympa. Merci beaucoup, Max Besnard.
Ah ben, je suis pas là pour être sympa. Moi.
Ok, très bien. Ben, moi non plus.
Je suis là pour la gagne. Je suis là pour la gagne.
Tu sais à qui me fait penser Max Besnard là? Jean-François Copé. C'est le mec que tu le prends en lieutenant, t'as confiance. Et puis, à bout d'un moment, il fait ah non, je trouve que François Fillon, il fait pas une bonne campagne.
Voilà, non, c'est pire, c'est David dans Top Chef, quoi. Non, je vous le dis.
Oh là là, je sais pas qui c'est, mais ça a l'air sale.
C'est horrible.
Très bien. Et ben, venant du Nicolas Sarkozy du podcast français, je prends ça comme un compliment.
Ah, c'est dégueulasse ce qu'il a dit sur toi, Perrine. Alors, pour ma part, bah écoutez,
je suis clairement la pécresse de trucs.
Ah, j'aime cette ambiance électrique. Alors, KDO à la télé, bon bah c'est quand même des milliards de sketchs, mais c'est aussi des happenings en fait. On les prend parce qu'ils dynamitent les émissions, parce que les émissions sont trop chiantes sans eux. Bref, Eric et Ramzy, carrière télé ultra imposante quand même. Ils sont. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil.
Eric et Ramzy, c'est H. Ils sont pas tout seuls. Heureusement qu'il y a plein d'autres comédiens assez monstrueux avec eux sur le programme. Et après ça, Eric et Ramzy, c'est fini. Eric et Ramzy, c'est trois films qui font quatre entrées. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu compliqué pour leur carrière. Donc, ils ont été obligés de se séparer parce qu'ensemble, ça fonctionnait pas.
Alors d'abord, ils ont été obligés de se séparer. Ils reviennent régulièrement. Et d'ailleurs, quand leurs films ne donnent pas exactement ce qu'on veut, c'est là qu'on est déçu. Par contre, il y a H, il y a les mots d'Eric et Ramzy. Les mots d'Eric et Ramzy, c'est vraiment pour un truc qu'ils ont sans doute écrit vraiment à la va-vite. Parce que c'est ça aussi le problème de Eric et Ramzy, je pense, à la télé, c'est qu'ils écrivent pas assez. Et ça se voit, tu sens qu'ils sont en impro, tu sens qu'ils partent d'un délire de « on a cassé un truc de décor et on va rigoler là-dessus pendant une demi-heure ». Ça marche, mais je pense que c'est pas... Je pense qu'ils auraient gagné. Et là, je veux dire... Je pense que KDO sont un peu plus forts que
Eric et Ramzy. Parce que Olivier Barou, derrière, il a toujours pris le temps d'écrire, en fait. C'est ça la grande différence.
C'est peut-être parce que Barou sait qu'il est pas assez charismatique devant
l'écran. Bon, mais de toute façon,
je
vais être obligé de t'interrompre, Daniel Andreev, mais réfléchis une seconde à ça. La carrière d'Eric et Ramzy se base quand même essentiellement sur un show dans lequel il y a des rires enregistrés. Donc à ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être écouter les arguments de Perrine parce que les tiens, ils sont pas recevables.
Non, mais moi j'ai reconnu qu'ils sont pas les meilleurs sur la télé, mais Perrine va peut-être. Et là, Perrine a vraiment sa carte à jouer parce que on peut le dire.
Clairement, le Palmacho. Alors déjà,
le Palmacho, ils ont capté l'air du temps.
Ils ont capté l'air du temps. C'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose qui à un moment donné. Bon, déjà ils se sont fait repérer. Au début, ils avaient écrit des spectacles, hein, même si on a bien compris tout à l'heure que personne les avait vus. Mais ils ont écrit des spectacles, mais surtout ils se sont fait repérer sur Internet. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont commencé. Ouais. c'est vraiment avec le Very Bad Blague que d'un seul coup le Palma Show a pris toute son ambiance, enfin toute sa force en tout cas, même si en fait en réalité ils étaient d'abord à la télévision sur Direct 8 avec la folle histoire du Palma Show. C'était plutôt à la télévision qu'ils ont commencé, mais c'est vraiment Internet qui les a plus que lancés. Sur YouTube, Very Bad Blague, il y a plus de 200 sketchs qui ont été aussi diffusés sur Direct 8, quand ça existait encore, sur Direct 8, et qui après ont vraiment cartonné sur YouTube. Mais et surtout, ils ont réussi à faire une transition qui n'est quasiment plus possible de nos jours, c'est-à-dire en étant repérés vraiment sur Internet, même si encore une fois, ils avaient déjà une part de télévision. Ils ont su derrière revenir sur la télévision encore plus fort et faire des cartons d'audience à la télévision qu'aucune personne d'Internet ne peut se targuer d'avoir fait. Aucun Norman, aucun machin et Carlito, là j'ai oublié McFly et Carlito, aucun YouTuber, Cyprien ou autre, n'a su faire la transition du web vers la télévision. Et eux, ils ont parfaitement réussi à intégrer les codes, réussi à transformer l'essai en faisant plusieurs choses, notamment en faisant le fameux Cannes-off qu'ils faisaient dans Quotidien au moment du Festival de Cannes. C'était très, très drôle. Et puis d'avoir fait aussi les folles soirées du Palma. Enfin, il y avait le Palma Show, l'émission, sur D8, encore une fois. Puis il y a eu les folles soirées du Palma Show. Il y en a eu plusieurs qui ont cartonné.
Et si tu me permets, Perrine, il y a toute une... Ça, ils ont fait ce que... KDO ne font pas, ce que Eric et Ramzy ne font pas, et ce que les Inconnus faisaient, c'est-à-dire des parodies, en fait.
Bah, oui,
ils reprenaient des chansons à la mode, ils ont repris des émissions à la mode.
Quand ils font Vianouche et qu'ils font La Chienlit, moi, ça me fait chialer de rire, je suis désolée. Enfin, pour moi, ils ont réussi à capter ce qu'était Vianney, déjà. voilà, quand on parlait des Inconnus tout à l'heure, c'est vrai c'est clairement leur descendant direct. C'est cette idée à la fois de la parodie, mais pas méchante, c'est l'idée de parler... c'est vrai qu'ils n'ont pas un monde peut-être aussi chez père que Eric et Ramzy ou même KDO d'une certaine façon, mais ils ont cette capacité à, et c'est pour ça qu'ils plaisent, je pense beaucoup, c'est cette capacité à représenter le français et les français.
Cadmerade, personnalité préférée des Français.
Oui, mais non, c'est pas une sorte de personnalité préférée. C'est-à-dire que les Français se reconnaissent vraiment dans les personnages qu'ils sont en train de jouer. C'est des gens. Ils vont tirer, ils vont parodier un petit peu le français, mais comme faisaient les Inconnus, sans aucune méchanceté derrière. Mais l'idée, c'est d'un seul coup de savoir se moquer de nous intelligemment, et puis surtout de créer des nouveaux standards de rigolance, j'ai envie de dire, et de savoir capter vraiment l'air du temps. Ils sont vraiment dans l'air du temps.
Je pense que honnêtement, des trois que, alors c'est vrai que KDO, ils ont quand même.
Ils ont marqué leur génération, adoubé
par Chabat et Farrugia, je vous rappelle. Hein.
Mais pas
sur Comédie à la tête de la grosse émission pour rien à l'époque. Hein.
Ouais, mais bon, ils ont adoubé Hanouna, donc ça veut rien dire.
Hanouna était très très bien au début de sa carrière.
Mais d'une certaine façon,
le Palma Show est adoubé par Alain Chabat, mais aussi par Cadmerade. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est eux, ils ont le combo de tout le monde, en fait.
Oui, enfin, ça veut dire qu'ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir aussi.
Je trouve que d'abord ils sont beaucoup plus jeunes que les autres, beaucoup plus jeunes, on va dire.
Bah oui.
Mais je trouve qu'ils ont à tel point repris les codes des Inconnus qu'ils en ont repris un peu les tics de l'époque. Et par exemple, je pense à leur imitation de Maître Gims où ils font une blackface, et je me suis dit putain, ils sont quand même un peu en retard sur ce coup-là, parce que autant les Inconnus pouvaient se permettre des trucs dans les années 80, autant Palma Show, ils sont un peu borderline, je trouve.
Ils ont fait une blackface.
Bah ouais, il y en a l'un d'eux qui est déguisé en Maître Gibbs avant blackface, et j'ai fait waouh, je ne peux pas montrer ça. Et ouais, non.
Je suis un peu étonné de leur part, hein, parce que.
Non, mais après.
Moi, ça m'étonne pas.
Oh putain, Max, vraiment, t'es vicieux. T'es vraiment dégueulasse.
Non, ils sont pas.
Mais leurs parodies de chansons sont hilarantes. Moi, je me suis écouté The Bobos, qui est une parodie de chansons genre d'altermondialiste.
Ouais.
Et même
sur Babylon.
Ouais. Non, The Bobos, c'est celui qui mange du quinoa. Enfin,
oui, d'accord, c'est celui-là.
C'est à hurler de rire, et en même temps, ils sont frères et sœurs, mais en même temps, tu sens qu'il y a une tension sexuelle entre eux. C'est super mal, ça, j'adore. C'est vraiment, ils ont, ils ont,
ils ont le nez pour ce genre de truc. Et tu parles de Babylone. Oui, ils ont fait les zadistes. Ils essayent d'aller un peu dans tous les sens.
Non, puis surtout, c'est des gens qui ont vraiment le sens du gag et du sketch. C'est pas des gens qui vont être à la recherche de la vanne, qui vont être à la recherche de la bonne réplique, de la punchline. Ce qui les intéresse, eux, c'est vraiment le créer un gag. Et ils vont pas les tirer non plus à 100 ans. C'est-à-dire qu'ils ont compris l'efficacité du 2 minutes 30, par exemple. Et ils vont pas essayer de vouloir pousser 100 ans la même chose. Mais ils ont compris ce que c'était qu'un univers de blagues, de savoir créer un sketch qui a un début, un milieu, une fin. Et pas du tout de... Alors, pour le coup, je trouve pas que Eric et Ramzy ou KDO soient non plus là-dedans. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils sont à l'inverse d'une tendance de comique actuelle qui est absolument dans la recherche de punchline, ce que n'est pas le Palma Show, qui est vraiment un vrai travail d'écriture que moi, j'apprécie beaucoup.
Maintenant qu'on a dit bien du Palma Show niveau télé ou YouTube, puisque oui. Pour nous, c'est un peu la même catégorie, il faut parler maintenant du cinéma. Et là, Perrine, tu vas parler moins. Parce que...
Ils ont
un film et qui n'est pas génial. Ah, je déteste ce film.
Mais c'est super, la folle histoire de Max et Léon.
Je trouve ça vraiment pas bon.
Ah non, je déteste
ce film.
Ah bah j'adore le film, je trouve ça génial, c'est très bon.
Essaye de me le défendre parce que je n'y crois pas.
Ah bah déjà bon, parce qu'à chaque fois qu'on parle de David Barcé et de Grégoire Ludig, on oublie souvent Jonathan Barré, qui est quand même un peu le troisième larron de l'affaire. Jonathan Barré.
Jamais entendu parler.
Qui est le réalisateur de...
Il s'est barré.
Qui est le réalisateur des...
C'est lamentable.
Alors, je pense que... Ah, j'essaye de me mettre au niveau du Palma Show. Hein.
That's mean. C'est juste méchant, quoi. Non. Et c'est un peu le réalisateur de... Bah, c'est celui qui a créé Very Bad... Enfin, qui a créé les Very Bad Blagues et tout ça avec eux, quoi. Et qui a réalisé La Folle Histoire de Max et Léon. Mais qui est écrite par le Palma Show. Et... Moi, je trouve que c'est vraiment très réussi parce que déjà, c'est un film qui va complètement à l'encontre de ce que toute la comédie française fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire
écrire des bonnes blagues.
Ben, non, ils font ils font pas des blagues. Ils sont pas là dans la vanne. Encore une fois, ils créent une histoire. Ils s'amusent à faire une histoire qui est vraiment. On sent que c'est des cinéphiles qui ont envie de rendre hommage à beaucoup de choses du cinéma, qui ont une ambition visuelle, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de comédies françaises à l'heure actuelle. Ils ont une vraie ambition visuelle et en plus, ils créent des personnages. Ils s'amusent d'une époque, ils s'amusent d'une situation et ils ont une vraie capacité d'écriture de gags et pas seulement de la punchline. Il y a de la profondeur, il y a de la réflexion et il y a vraiment un sens de l'humour. Moi, je trouve qu'on est plus proche finalement de certaine façon de la 7e compagnie ou même du Père Noël est une ordure quand je les regarde eux que tout ce que fait la comédie. Alors tout ce que fait, c'est mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas vrai. Mais je les trouve plus intéressants que les comédies françaises produites à la chaîne où on voit les claviers et compagnie. Et eux, au moins, ils tentent quelque chose, ils changent, ils débordent, ils vont vers un autre terrain que plus personne n'aborde, ils tentent ce que plus personne ne tente. Et moi, j'apprécie beaucoup.
J'ai aucun vrai souvenir de ce film, je me rappelle pas d'une seule réplique, drôle. D'une seule vanne.
J'ai un vrai problème avec
parce
ce film
parce que c'est pas un truc à réplique.
Parce que c'est pas un truc à réplique, c'est même pas un truc à drôle.
Mais c'est hyper drôle quand ils font la France Collabo de Vichy, c'est hyper drôle. Quoi.
Bah, je la trouve pas très bonne en fait, et je trouve que. Ça veut faire l'As des As. Pour moi, c'est la référence de ce film. Ça essaye de faire un peu, de vanner un peu là. Et en fait, c'est pas du tout drôle leur parodie de la France Collabo.
C'est drôle.
Ça pédale
drôle.
Dans la semoule.
Ah bah, quitte à choisir, tu mets OSS 117 en face.
Et la fin
est d'un glauque. Ils vont se faire tuer sur le champ de bataille au débarquement. Enfin. Ça nous raconte quand même des histoires de deux mecs,
des moyens.
Non.
C'est des gens qui sont totalement moyens. C'est pas du tout de l'héroïsme ou quoi que ce soit. C'est de dire, bah, franchement, si on avait, qu'il y avait une nouvelle guerre et qu'on était tous là, on serait pas tous des héros et que si on pouvait s'en sortir, on s'en sortirait, quoi.
Le pitch du film, ils disent, Max et Léon jouissent d'une solide réputation de bois à rien. C'est vraiment des bois à rien.
Ils foutent pas grand chose, quoi.
Qui essayent de prendre c'est des déserteurs, hein.
C'est des gars qui essayent de s'en sortir. Ils veulent juste pas le faire.
Absolument rien de drôle.
C'est des gens moyens et qui vont faire des mauvaises décisions.
J'aime pas du tout ce film.
J'aime bien l'idée que d'un seul coup on célèbre les gens moyens. Pas.
Mais par contre, parlons plutôt de la carrière de cinéma de KDO.
Qu'est-ce que tu veux dire sur la carrière cinéma de KDO? Elle est fabuleuse.
Alors, vraiment non. Les films non. De...
Ah bah là, attends, Pamela Rose, oui. C'est une ça de oui. mes comédies préférées françaises. Qui a retué Pamela Rose, c'est peut-être certes en non. dessous, mais ça reste quand même d'assez haut vol. Et Un ticket pour l'espace, moi je suis tout à fait, comment dire, tout à fait OP pour le défendre. C'est un film que j'aime beaucoup.
Bah disons que La dinde qui vole, pour moi, ça reste un grand moment. Non mais enfin, La dinde dans l'espace.
Est-ce que c'est pas,
un mouton qui, les moutons qui pilotent des hélicoptères, je veux dire, s'il vous plaît, un mouton qui pilote un hélicoptère, c'est parfait.
Est-ce que c'est pas l'œuvre d'Éric Lartigot surtout?
C'est sûrement l'œuvre d'Éric Lartigot, mais le film a été scénarisé de toute façon par Cadet aussi, donc.
Il y a un truc, moi je trouve que leur filmo est pas, genre elle est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre.
Attention,
à l'époque.
Leur filmo, on précise, les films qu'ils ont écrits, donc Pamela Rose, Retour de Pamela Rose, Ticket pour l'espace, ils en ont réalisé qu'un seul ensemble, c'était donc la suite de Pamela Rose. Après, effectivement, ils ont pas une carrière ensemble au cinéma. Alors, qui est très intéressante ou très impressionnante, ça je suis tout à fait d'accord.
Parlons-en séparément, Olivier Barou en tant que réalisation. Avant de trouver la cash machine, les tuches, et ça on peut pas nier,
les tuches,
l'espèce de bulldozer.
Non, mais c'est un bulldozer, je peux pas nier. C'est juste deux secondes, en fait, je fais un petit aparté palmacho. Leur premier film fait quand même 1 200 000 entrées à l'heure actuelle, c'est rarissime, bravo les gars, c'est tout. Mais c'est vrai que par rapport au bulldozer, les tuches.
Oui, les tuches. Mais c'est vrai que les tuches est un cas particulier, c'est quand même ces trois films pas bons. Je suis désolé, hein, j'ai jamais vu. Et je pense qu'en fait, Olivier, il a pas de personnalité en tant que réalisateur, en fait. Quand tu vois Just Gigolo, que j'ai vu, tu te dis, ça pourrait être réalisé par n'importe qui. En fait, on a marché sur Bangkok. Et en fait, je crois que son film le plus personnel, c'est aussi le film le plus personnel de Cad, c'est l'Italien, en fait. Il raconte peut-être. Et je pense que là, on n'est pas dans la comédie pure, puisque c'est Cad qui joue Dino, un Italien, mais en fait, on comprend.
C'est une sorte de biopic, un peu, ouais.
qui s'appelle Mourad, en fait, et qui se cache. Et là, il y a
Il se cache, Mourad.
Et il y a un vrai sujet. Et il y a
Oh la vache! Oh là là,
t'as perdu par KO, mais
j'essaye de me mettre
mais
à votre niveau.
Mais même ton
niveau,
il est mauvaise foi, quoi.
C'est pas facile.
Et vraiment, pour le coup, là, j'ai bien aimé l'Italien, mais je crois que c'est le seul film que j'arrive à sauver de sa filmo. Le reste.
Non, Pamela Rose, arrête, Pamela Rose.
Pamela Rose, ouais, Pamela Rose.
Pamela Rose, c'est parfait.
Pamela Rose, ouais, si.
C'est parfait.
J'aurais pas dit que c'est parfait, mais il y a un truc avec Pamela Rose qui fonctionne, c'est que c'est quand même une parodie de film ricain fait à une époque où les Français justement se prenaient vraiment pour des ricains et faisaient des polars. Enfin, il y a eu toute une série de films qui se prenaient tous pour Seven, quoi.
Bah, tu dis là, on dit que Palmacho.
Il y a un vrai sens de l'absurde qu'on d'ailleurs, qui est partagé avec Solidaire et Ramsey à ce moment-là. Ouais. Tu nous dis, Perrine, que le Palmacho a su capter l'air du temps. KDO ont capté aussi l'air du temps à cette époque-là. Alors, certes,
mais
ça s'est transformé.
Mais avec un décalage plus fort.
Moi, j'attends de voir aussi la carrière des gars du Palmacho dans les 10-20 années qui arrivent. Hein. On en reparlera. Hein. Peut-être que ça sera tout aussi fulgurant.
Je pense qu'ils vont faire un truc. Ils ont pas. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont pas peur de tenter des choses qui sont pas à leur image. Là, quand ils vont faire le film de Quentin Dupieux, un petit peu comme Éric et Ramzy l'avaient fait à l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dans un terrain que leurs fans on les attend pas là-dessus, en fait. Et je pense que c'est des gens qui sont dans une prise de risque tout à fait intéressante. Et pour moi, ils descendent. Je sais qu'on est en battle, mais en réalité, je pense que Palmacho est vraiment un enfant illégitime de KDO, Éric et Ramzy et des inconnus, en fait. Ou totalement légitime.
Oui,
d'ailleurs.
Non, mais évidemment, bien sûr.
Et pour finir, on va parler un peu de la carrière ciné de Éric Ramsey, dont on parle régulièrement parce que.
Oui, on en a parlé.
Séparément ou ensemble, ils ont quand même marqué leur époque. Moi, je suis très, très fan de.
Non, alors, de la tour Montparnasse infernale. Je suis désolé, je suis obligé de t'arrêter tout de suite. Le problème d'Éric, c'est que c'est peut-être le gars le plus brillant dans la comédie française qu'on a eu depuis, j'allais dire presque depuis toujours. Moi, je suis vraiment amoureux de son travail. Mais le truc, c'est que c'est absolument pas marquant dans le sens populaire. Ah, personne alors, oui, n'entend parler de ces films.
Bien croire que, je veux bien croire que ça marche moins que
c'est flop sur flop à chaque film. Il le reconnaît lui-même et il est plus, enfin, c'est quand même un mec qui est aujourd'hui connu parce qu'il a tourné il a joué même dans des pubs EDF, quoi. Je veux dire, son truc, c'est, ah, elle utilise trop le sèche-cheveux, tout le temps le sèche-cheveux. Excuse-moi, mais il est connu que pour ça aujourd'hui.
Alors, je savais pas ce que, jusqu'à il y a 10 secondes, je ne savais pas ce que c'était.
Bon, je suis fan de ses pubs pour EDF, faut le dire.
D'accord. moi, je suis fan de La Tour Montparnasse Infernale. Je pense que c'est une super comédie. Je pense que ça fonctionne à fond. Je pense que c'est une comédie très référencée sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire les codes de la BD, du comics,
de l'absurde.
Enfin, je veux dire, c'est vraiment là-dedans. Il y a les héritiers de Tex Avery. C'est l'humour le plus absurde que j'aime. Et même si sa suite, La Tour de Contrôle Infernale, qui est d'ailleurs réalisée par Judor, à moins marché, à moins marqué, je pense que c'est vraiment une comédie vraiment ultra audacieuse, en fait. Quand tu regardes ce qu'elle nous propose, elle nous propose quand même... ça n'a aucun sens. Et en même temps, ça nous propose un Philippe Catherine en roue libre avant que Philippe Catherine tourne du film.
C'est évident qu'on l'a déjà dit plein de fois. Je crois qu'on est tous et toutes amoureuses d'Eric et Ramsey au cinéma, dans les grandes lignes en tout cas. Eric Judor, je trouve que c'est un maître absolu. Mais le fait est que, en termes de popularité, c'est le moins populaire de toutes les personnes qu'on est en train de citer là. Bon, à part le binôme du Palmachot dont personne se souvient. Mais c'est pas très très. C'est pas très très important de toute façon.
Non, mais c'est vrai que chez les Yev, il est moins, c'est sûr que voilà, au bout d'un moment la vieille génération c'est ce qui est vrai
chez les Yev. Alors tu sais que Daniel est le plus âgé de nous trois ici, hein.
Merci de le souligner.
Et donc, peut-être des Yev.
Mais donc ce que je pense, c'est qu'il y a eu c'est que Eric et Ramsey ont été vraiment le déclencheur de Quentin Dupieux, puisqu'ils étaient déjà là dans Steak. Et je pense que Steak n'aurait pas fonctionné s'ils avaient pas pris Eric et Ramsey, parce qu'il fallait un gros duo pour dynamiter les attentes des gens. Et je pense que Steak fonctionne parce que justement t'as des attentes bizarres. Et le problème, c'est que à partir de ce moment-là, ils ont eu une carrière en dents de scie, c'est-à-dire on les prenait un peu pour faire Eric et Ramsey à nouveau, et en même temps c'était pas exactement ce qu'ils attendaient, et ils ont beaucoup dérouter les gens. Je veux dire, Seul Tout est une comédie visionnaire, mais c'est pas parfait, et les gens sont ressortis plutôt déçus de Seul Tout, alors qu'aujourd'hui les gens ont un regard plutôt tolérant.
Après, il y a aussi un autre
à la police d'État.
J'allais dire, il y a un autre fait qu'il faut prendre en compte, c'est que si on se base uniquement sur les films dans lesquels le duo apparaît. Évidemment, Eric et Ramsey, ils ont une filmo qui est beaucoup plus fournie. Ils étaient effectivement appelés en tant que duo, ce qui sera peut-être le cas du Palmachot dans les années qui viennent, mais ça, on peut pas encore le savoir. Ça a jamais vraiment été le cas, finalement, de KDO qui se sont vite séparés l'un et l'autre. Mais voilà, Eric et Ramsey, filmo hyper fourni, et filmo en dents de scie, tu l'as souligné, il y a quand même du génie, et il y a aussi des choses atroces. Je veux dire, à la police d'État, 00, j'aurais bien du mal à les défendre.
Non, moi je les défends pas.
Alors que la
mais
tour
par
Montparnasse
exemple,
1 et 2...
Je suis prêt à défendre les nouvelles aventures d'Aladin.
J'ai moi-même défendu les Dalton, je vous rappelle. Donc,
mais c'est vrai. Tu es amateur des causes perdues, mais dans les nouvelles aventures d'Aladin, donc où avec Kev Adams, donc où on parle souvent de la flûte dans le cul, mais c'est pas le sujet de la question. Il y a des scènes absolument géniales avec Eric Judor qui tient à bout de bras son personnage, puisqu'Eric Judor joue Robin Williams mais sous acide, en fait. c'est absolument génial, à tel point que quand vient à la 2 et la promesse d'un battle, ce qu'on est en train de faire justement entre Eric et Ramsey, ben on est déçu parce que le battle n'a lieu que 2 minutes et t'as eu le temps de t'endormir 3 fois pendant le film. Voilà, je pense que Eric et Ramsey font naître trop d'attentes, en fait, à chaque fois qu'ils sont ensemble. Et c'est ça qui pêche à leur film. Double zéro, je veux dire, double zéro, tout était là. Le méchant, c'est Edouard Baird. Tu te dis, comment tu peux louper un film comme ça? Et tu regardes le film et t'es affligé.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc, mais en même temps, je pense que c'est les plus... créatif dans tous ceux qu'on a mentionnés, parce que individuellement ou séparément ils essayent des trucs, ils ont des choix audacieux, voilà, c'est ça que je veux dire. Eric Judor,
Il fait une comédie comme Rouler Jeunesse. Alors, Rouler Jeunesse commence comme une comédie et c'est un putain de drame social. Qui est vraiment.
C'était dur d'ailleurs.
C'est très très dur.
Ouais, c'est très dur. Tu ne t'attends pas trop à ça. C'est même un peu déroutant quand même.
C'est-à-dire, il y a deux films en un. C'est-à-dire.
Après, moi, je vais apporter de l'eau au moulin de Périne hein, pour une fois. Mais,
s'il te plaît.
Non, mais soyons honnêtes. C'est vrai que Grégoire Ludig, il a ce début de carrière. En tout cas, tu sens qu'il a cette volonté aussi de sortir de sa zone de confort. Et je suis vraiment impatient et très curieux de voir ce que lui va devenir dans les années qui viennent.
Non, mais les deux pour moi.
Non, mais les deux sont super, évidemment. Enfin, je joue beaucoup. J'exagère à mes propos depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'adore aussi le Pamachon. Je suis hyper fan, ça me fait mourir de rire, évidemment.
Il y a plus à voir à venir, quoi.
Alors, on reconnaît le style Max Besnard, c'est-à-dire dire du mal pendant tout le temps et dire oh, mais je t'aime bien, Périne.
Oh, mais ça n'a rien à voir avec Périne, voyons.
Voyons.
Voilà. Non, mais je prends un exemple, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à trois, on va dire, d'après nous, quel est le duo qui a gagné, et ça va être un beau bordel. Ça va être un beau bordel. Un,
Cadéo.
Deux, trois. Un, deux, trois. Eric et Ramzy.
Cadéo.
Pas le macho.
D'accord, on n'est pas d'accord tous les trois.
Non, mais bon. c'est un peu choisir entre
tes trois enfants.
Entre tes trois enfants, c'est pas possible. Mais c'est...
Bah, techniquement, ça fait six parce qu'ils sont six. Quoi.
Ouais. Mais le fait est qu'on regarderait, c'est les trois paires de jumeaux là, et que moi je regarderais leurs œuvres. À chacun avec grand plaisir, c'est ça le truc en fait.
Évidemment. Après, voilà. Et
je regarderai de Contrôle Infernal maintenant. Genre, je le regarderai bien.
Mais le truc, c'est que je connais toutes les répliques de La Tour Montparnasse Infernal, je connais toutes les répliques de Pamela Rose. Je peux pas choisir entre les deux.
Justement, c'est le moment à tous de revoir Max et Léon pour enfin avoir une bonne vision de Max et Léon, quoi.
Peut-être. C'est vrai.
Et ne dis pas non, Daniel.
On n'a pas pu déterminer qui est le plus fort. Mais bon, on sait tous que c'est Eric et Ramzy.
Non. Kat Verratt, personnalité préférée des Français. Hein.
Ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire un autre battle. Et ce coup-ci, on va faire Les Chevaliers du Fiel contre Shirley et Dino. Et là, on verra.
Les Baudins.
Les Baudins. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. J'ai honte, je suis un peu en retard. Voilà, on n'a pas déterminé.
On n'a pas été très bon sur ce coup-là.
On a pu mettre les arguments sur la table, on n'a pas pu se mettre d'accord. Et je pense que ce qu'il aurait fallu la prochaine fois, on prend un juge, et je pense qu'il faut un juge d'une neutralité. Je pense qu'il faut prendre Hugo en fait. Hugo serait un très bon juge pour déterminer un vainqueur. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était une expérience. La semaine prochaine, ça sera un épisode un peu plus normal avec une personne de talent dont on va revenir sur une carrière qu'on aime bien. On remercie Solène et Quentin, notre duo de la technique. Et eux, ils s'entendent super bien. Je pense qu'ils travaillent sur une comédie là en plus.
C'est vrai ?
Non, pas du tout.
Je suis impatient de voir la suite.
Travaille sur MDR. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur les Apple Podcasts, sur toutes les plateformes dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Donc la semaine prochaine, on va revenir à une formule plus classique, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres idées de battle, parce que on peut faire les battles impossibles, hein. Je veux dire les Robins contre la troupe du Splendide, on peut faire des trucs impossibles. Le seul problème, c'est qu'il va falloir un peu plus de bonne foi, Max Besnard.
Ça va pas être possible.
Alors ça sera sans moi. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là et d'avoir mis votre bonne humeur au service de ce podcast ultra, ultra, ultra travaillé. Toutes nos punchlines étaient travaillées.
Bien sûr, tout était écrit.
On vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.